10 minutes avec
Radio Grenouille.
10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Tiphaine Lebègue au Passeo des entrepreneurs au Doc des Suds, un Passeo organisé par l'Union régionale BGE Grand Sud. Tiphaine Lebègue qui est professeure en entrepreneuriat à l'école de commerce de Tours et qui a mené une thèse qui a pour titre « Le processus entrepreneurial des femmes en France ». Tiphaine Lebègue, bonjour.
Bonjour.
Cette thèse « Processus entrepreneurial des femmes en France », de quoi s'agit-il ? C'est comprendre comment les femmes entreprennent ?
Oui, en fait, initialement, lorsque j'ai débuté mes travaux de recherche, donc il y a maintenant 7 ans, je m'intéressais à l'entrepreneuriat des femmes et donc le chiffre de 30% de chefs d'entreprise qui sont des femmes m'avait interpellé. Donc je souhaitais comprendre finalement pourquoi il y avait si peu de femmes qui créaient des entreprises. J'ai donc suivi pendant 4 ans des femmes qui étaient en projet de création d'entreprise pour savoir comment finalement elles entreprenaient, est-ce qu'il y avait des spécificités féminines dans la création d'entreprises au féminin.
Alors, est-ce qu'il y a des spécificités féminines ?
Oui.
Quelques lignes, peut-être ?
Alors, je tiens à dire que je n'ai pas, volontairement, je n'ai pas souhaité inscrire mes études dans un angle comparatif homme-femme. Je me suis exclusivement intéressée aux femmes. Donc, oui, il y a des spécificités. Je ne pourrais pas, je pense, toutes les évoquer, mais il y a quelques spécificités, notamment dans la croissance des entreprises féminines, par exemple, puisque les femmes cherchent à développer une croissance de leur entreprise plus douce. Ça ne veut pas dire que les entreprises des femmes sont moins rentables, ça veut dire que là où les hommes, par exemple, vont vouloir atteindre un chiffre d'affaires de 3 millions, la plupart des femmes vont atteindre 1 million et vont se dire « ça me suffit, c'est très bien pour moi ». Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les études internationales. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est relatif à la France exclusivement. Par exemple.
C'est ce qu'on pourra parler aussi de la manière dont on se représente la notion de réussir ou de la notion de réussite.
Oui, c'est-à-dire que pour la réussite de l'entrepreneuriat, moi j'appelle ça la réussite de la carrière entrepreneuriale chez les femmes, elle est ce qu'on appelle multidimensionnelle. Donc il y a évidemment la notion de réussite économique qui est importante, mais derrière il y a d'autres critères liés à la réussite que sont notamment la participation. Je réussis si j'ai réussi à faire en sorte que mon entreprise soit vecteur d'épanouissement pour d'autres personnes, si je réussis à faire en sorte que eh bien, je puisse participer à la participation économique des femmes, par exemple, la place des femmes dans la société, si mon entreprise participe au développement de mes compétences aussi. Donc il y a vraiment plusieurs dimensions qui influent sur la réussite entrepreneuriale des femmes.
Les femmes entreprennent majoritairement dans le domaine des services.
Oui.
Du care, d'une certaine manière.
Oui.
Cela vous étonne ?
Non, parce que les secteurs d'activité qui sont investis par les femmes rejoignent de toute façon les formations que les femmes vers lesquelles les femmes se tournent. Et c'est vrai que la plupart des formations tournent autour plutôt des services. Les formations sont encore sexuées, même si il y a plus de femmes qui vont dans les métiers de l'ingénierie, etc. Mais il y a quand même une sexuation. Les formations sont sexuées. Ceci dit, si on parle des entreprises innovantes, il faut savoir qu'en France, il n'y a que 8% des entreprises innovantes qui sont créées par des femmes. Et donc, en ce qui concerne l'innovation, on se rend compte que les femmes créent plus dans les biotech, par exemple, les biotechnologies, là où les hommes vont créer des entreprises innovantes dans tout ce qui concerne le numérique, les logiciels, etc. Et même pour les entreprises innovantes, il y a une différence dans le capital de départ. C'est-à-dire que les hommes vont investir en moyenne 500 000 euros, là où les femmes investissent en moyenne 285 000 euros. Donc on voit bien qu'il y a encore aussi, à ce niveau-là, une différence.
J'employais le mot de « service » en français, et puis j'ai employé le mot de « care », le soin, oui. À l'américaine.
Oui.
Ceci aussi parce qu'aux États-Unis, tout le secteur du care fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de champs de réflexion, de champs d'analyse, de valorisation économique, alors qu'en France, le domaine du soin, de l'accompagnement, est encore, disons d'une certaine manière, sous-estimé ou sous-évalué. Comment vous l'expliquez alors que c'est aussi un endroit donc que les femmes investissent beaucoup?
Oui, alors, et c'est quelque chose que je regrette aussi parce que en fait, je vais répondre en deux temps. Premier temps, c'est que ce dont on se rend compte, c'est que quand les femmes créent des entreprises, la plupart, enfin, il y a quand même 50% des femmes qui créent dans un tout autre secteur d'activité que celui dans lequel elles étaient auparavant. Et on voit bien que la notion d'accomplissement, elle est très importante. Donc les femmes, elles créent effectivement dans, encore aujourd'hui beaucoup, dans ce qu'on appelle le care, service à la personne, dans le bien-être. Et la création s'inscrit aussi dans leur projet de vie. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on met en avant de plus en plus l'entrepreneuriat dans des domaines peut-être plus considérés comme plus masculins pour les femmes, mais on voit malgré tout que c'est pas les domaines qui sont privilégiés par elles, et cela s'explique de différentes manières.
Parce qu'on a l'impression que le care en France n'est pas considéré comme une vraie entreprise, quoi, d'une certaine manière, comme un vrai projet. Qu'on pourrait considérer que cela relève encore du domestique, d'une certaine manière.
Oui, alors c'est toute la difficulté, et ça rejoint effectivement, ça rejoint certainement la différenciation entre le privé et le public, et que les femmes ont été quand même très longtemps, sont quand même très longtemps restées très loin de l'espace public. Et quelque part, c'est vrai que les femmes qui créent dans une activité liée au care ont encore plus de difficultés à asseoir leur légitimité entrepreneuriale, par exemple.
Ici, au Paseo des entrepreneurs, la question posée, existe-t-il un modèle économique de croissance de l'entrepreneuriat au féminin? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y aurait un management féminin singulier qui pourrait être différencié du management masculin, ou encore autrement, de la même manière qu'on peut parler avec l'écologie d'un possible capitalisme vert, est-ce qu'on pourrait parler d'un capitalisme féminin?
Non, alors effectivement, déjà, on pourra peut-être revenir plus tard sur la notion de masculin et féminin, la notion de genre, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important à expliquer. Peut-être plus tard.
Oui, on y reviendra.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il existe un modèle de croissance? Ben oui, en fait, c'est ce que je vous dis. En fait, que l'on accepte ou non, en tout cas dans toutes les études qui sont menées, que ce soit aux États-Unis, en Finlande ou en France, ce que l'on observe, c'est que il y a un modèle de croissance des entreprises féminines. Il y a aujourd'hui, il y a quand même des entreprises de haute croissance qui sont créées et dirigées par les femmes, mais malgré tout, comme je vous l'ai dit, une aspiration à une croissance plus douce, qui est due, à mon avis, au fait de dire qu'on va mettre l'accent sur d'autres éléments aussi dans la réussite. Donc oui, il y a un modèle de croissance, et oui, il y a un management féminin. Ça ne veut pas dire que le management féminin est exclusivement le fait des femmes entrepreneurs, parce que finalement, il y a certains hommes qui ont finalement un management beaucoup plus féminin que masculin.
Ce que vous appelez un management féminin, qu'est-ce que ce serait? Ce serait ça, cette croissance douce? C'est ça
ce
que vous
appelez un management? Alors, le management féminin renvoie notamment à ce qu'on appelle un leadership plus participatif, au fait d'essayer d'impliquer les salariés, mais aussi les associés beaucoup plus dans la décision, mais surtout les salariés, dans la décision, la concertation. Donc on est plus dans quelque chose de plus participatif, leadership transformationnel, que évidemment un management plus directif, par exemple.
Mathéo, je crois que tu voulais intervenir.
Oui, à vous entendre, on pourrait se dire que tous les hommes auraient tout intérêt à s'inspirer de ce que vous êtes en train de dire. Voir que la plupart d'entre eux, donc d'entre nous, sont totalement largués. Parce que vous parlez de croissance douce, mais qui n'empêche pas qu'on soit aussi dans des formes de croissance, des nouveaux types de management, d'inclure le projet professionnel de manière plus harmonieuse dans un projet de vie. Vous n'avez pas parlé de la gestion des ressources humaines, mais on peut en déduire aussi que ça doit avoir aussi des impacts sur la manière dont sont traitées les équipes, etc. etc. Donc les hommes sont mal barrés?
Non, parce que... comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, tout ce qu'on observe, en tout cas chez les femmes, on voit aujourd'hui qu'il y a des hommes qui commencent et qui managent, finalement, qui ont un management plus féminin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les études qui ont été menées pendant longtemps, sur l'entrepreneuriat, ont été menées en fait en s'appuyant sur des échantillons d'hommes. Et donc forcément, l'entrepreneuriat des hommes est devenu la norme. Et à partir de là, dès lors qu'on étudie d'autres formes d'entrepreneuriat, on l'étudie toujours en rapport à une norme qui devient quelque part une norme dominante. Et moi, je suis persuadée que étudier finalement l'entrepreneuriat des femmes permettra aussi de faire avancer l'entrepreneuriat des hommes, parce que les femmes impulsent en fait une nouvelle vision, des nouveaux modèles entrepreneuriaux qui vont réussir à s'installer dans la société. Et qui vont permettre aussi, peut-être, qui vont servir d'exemple aux jeunes, à tous les jeunes, à toute personne qui voudrait entreprendre, notamment des hommes. Et de toute façon, l'entrepreneuriat des femmes s'inscrit aussi dans une nouvelle quête, en tout cas individuelle, et que les hommes, en tout cas, pour certains, suivent également.
Alors, si un homme peut faire de l'entrepreneuriat féminin, si je vous suis bien, on pourrait considérer que votre thèse est une thèse plutôt sur des questions de genre, d'une certaine manière.
Exactement. D'ailleurs, dans ma thèse, je fais un point important sur la notion de genre. Qu'est-ce que c'est le genre? À quoi cela renvoie? Et finalement, je parle d'entrepreneuriat féminin, plus que d'entrepreneuriat des femmes. Il n'empêche que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que l'approche féminine dans l'entrepreneuriat est plus le fait des femmes. Donc très souvent, je parle d'entrepreneuriat des femmes. Mais je tiens bien à faire ce distinguo parce que très souvent, on confond, notamment dans les médias, la notion de femme et de féminin. Et alors que le mot féminin, le mot masculin, renvoie bien à un concept qui est le genre, qui renvoie lui-même à une construction sociale des sexes. Donc c'est important aussi de comprendre.
Vous auriez pu peut-être aussi employer le terme d'entrepreneuriat féministe, par exemple, au sens aussi d'un entrepreneuriat pris dans un militantisme, donc disons d'un entrepreneuriat féminin, et donc cela deviendrait un entrepreneuriat féministe.
Oui, mais alors là, si je parle d'entrepreneuriat féministe, je devrais qualifier le féminisme, parce qu'il y a plusieurs formes de féminisme. Donc sans rentrer dans la description de toutes les formes de féminisme, dans ce cas-là, ce serait pour ma part plutôt un féministe qu'on appelle social. C'est ce qu'on appelle la constructiviste plus que libéral.
Et ces femmes que vous avez rencontrées se revendiquaient-elles féministes ?
Non, mais en fait, il y a un paradoxe chez les femmes entrepreneurs. Et d'ailleurs, je suis toujours, lorsque j'interviens en conférence, très attentive sur la façon dont je vais introduire mon propos. Parce que la plupart des femmes entrepreneurs, au départ, refusent d'entendre qu'il y a des spécificités. Ceci dit, quand on leur demande comment elles entreprennent et comment elles managent, par exemple, ou comment elles gèrent leur entreprise, elles vous disent tout de suite après, oui, non, mais c'est vrai que je ne gère pas du tout de la même façon que mon époux, par exemple. Donc il y a un paradoxe chez les femmes, donc elles ont, et puis le mot féminisme a été très galvaudé. Donc même si je dis aux femmes, mais être féministe, c'est rien de plus, rien de moins que revendiquer l'égalité d'accès entre les hommes et les femmes, les mêmes égalités, donc on devrait être tous féministes, hommes et femmes, mais c'est quand même un terme qui aujourd'hui a mauvaise presse.
D'après une étude que me confiait le personnel de l'URBGE ici, me disait que 70% des femmes passaient par des couveuses d'entreprises, quand seulement 30% des hommes passent par des couveuses d'entreprises lorsqu'ils sont à l'endroit de leur projet. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on s'aperçoit que les femmes acceptent davantage, pour le coup, l'accompagnement. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu identifier sur votre étude ? Ou alors, c'est un scoop que je vous donne ?
Là, c'est un scoop pour moi. Parce que moi, j'avais pas. Alors, c'est vrai que ça dépend. Moi, j'ai pas ces chiffres-là, mais ça dépend là encore de. Il y a tellement d'accompagnements différents. Donc, peut-être que les femmes vont plus vers des couveuses que, par exemple, vers des incubateurs, ce qu'on appelle incubateurs, ou d'autres types d'organismes d'accompagnement. Puisque moi, les éléments que j'ai, c'est plutôt que. Il y a plutôt moins de femmes qui se font accompagner et encore moins qui créent. Donc c'est,
Tout à l'heure, j'ai discuté avec une jeune femme qui travaille ici à l'URBGE. On discutait sur la parité dans le monde de l'entreprise, sur le modèle de la parité en politique. La parité dans le monde de l'entreprise, elle me disait oui la parité, d'accord, mais bon, la question de la qualité est importante, c'est-à-dire il faut aussi penser la qualité plus que l'égalité. Vous y croyez à une possible parité obligatoire dans le monde de l'entreprise au niveau des salariés?
Bien, en fait, cela rejoint la question des. Alors, est-ce que cela rejoint la question des quotas ou pas ou...
Quotas, oui. Ce serait celle des quotas, par exemple, d'un quota 50-50, quoi, une parité 50-50, comme elle existe aujourd'hui ou elle est censée exister aujourd'hui dans nos représentations nationales.
Voilà. Alors, la question des quotas est toujours délicate, encore une fois. Mais malgré tout, je pense que si on n'instaure pas de quotas, c'est ce qui s'est passé par exemple pour les conseils d'administration où on a dit il faut qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration en France, parce qu'il n'y avait que 6% et que ce chiffre évoluait très 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 peu. Donc malheureusement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on ne peut pas compter exclusivement sur un changement de mentalité et de représentation pour faire avancer la place des femmes dans la société. Donc parfois, il faut en passer par des quotas. Ceci dit, il faut quand même bien se souvenir qu'on revient... Il faut quand même rappeler quelques dates importantes et se souvenir que finalement, les femmes ont eu le droit de vote il y a seulement 65 ans, ce qui est relativement peu, qu'elles ont eu l'autorisation de travailler elles ont pu travailler sans l'autorisation de leur époux seulement en 65. Donc il faut bien se rendre compte en fait qu'on est finalement, cela peut paraître long, mais finalement c'est relativement peu et que aujourd'hui non, les femmes n'ont pas il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui
dans les faits,
c'est sûr. Si on parle en termes d'égalité salariale, par exemple, il y a encore un chemin à parcourir. Et malheureusement, ce dont on se rend compte quand même dans le monde de l'entreprise, c'est que les mentalités évoluent peu et les stéréotypes demeurent. Donc il faut en passer par...
Tiffaine Lebeg, lorsque vous avez fait cette thèse, vous étiez une des premières à faire une thèse sur ce processus entrepreneurial des femmes en France. Depuis, d'autres travaux ont été faits?
Oui. Alors ce qu'il faut quand même souligner, c'est que quand moi j'ai soutenu ma thèse sur l'entrepreneuriat des femmes en France, il y avait déjà eu des thèses soutenues en France sur l'entrepreneuriat féminin en Iran. L'entrepreneuriat féminin en Tunisie, donc des thèses qui étaient soutenues en France, mais il n'y avait jamais eu de thèse sur l'entrepreneuriat des femmes en France.
C'est bien connu, hein, l'inégalité homme-femme, hein, c'est toujours à l'étranger, voilà. Et de préférence en Tunisie ou en Iran. Hein.
Voilà, exactement. Donc, il y a des travaux doctoraux qui ont été, enfin des thèses qui ont été soutenues, puis il y a les recherches sur le sujet se développent davantage en France.
Aux États-Unis, notamment au Canada, ces recherches sont présentes depuis très longtemps. Il y a beaucoup de recherches. Je ne sais pas si vous connaissez ces territoires, mais est-ce que vous avez pu remarquer que dans les faits, dans le monde de l'entreprise, il y a une culture de l'entreprise différente liée au fait de cet entrepreneuriat féminin? Ça, est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous en avez connaissance?
Alors, qu'est-ce que vous appelez culture de l'entreprise?
Une culture de l'entreprise qui, justement, est traversée ou est transpire de cet entrepreneuriat féminin.
Je dirais, si on parle du Canada, par exemple, que je connais assez bien, au Canada, de toute manière, il y a un esprit entrepreneuriat. Je veux dire, quand on pose les pieds sur le territoire, moi, je suis allée plusieurs fois. J'ai rencontré des réseaux de femmes aussi d'affaires au Canada. Let's do it, il existe bien et il y a vraiment l'idée que on peut entreprendre, on peut essayer et si on échoue, c'est pas grave, on a au moins essayé et on peut tirer quelque chose de l'expérience. Donc inéluctablement, l'entrepreneuriat des femmes là-bas s'inscrit, ne peut non plus être compris que, doit être compris que en l'intégrant dans cet environnement entrepreneurial. Donc,
oui, dernière question, oui. Tiphaine Lebeg. Ici, au Passeo des Entrepreneurs, nous avons pu entendre Patrick Jacquemin, cofondateur de rueducommerce.com dans fin des années 90. Et il énonçait son parcours de la manière suivante. Ça commence par un jeu. C'est un jeu seul qui combat, qui est pris dans un désir fort. Ce jeu-là, cette manière de s'énoncer, ce type de récit qui part du parcours individuel, de « je me suis fait tout seul, une force combattante », j'ai l'impression que c'est un récit très, finalement, masculin. Est-ce que l'entrepreneuriat féminin, est-ce que la manière dont le récit s'articule chez les femmes se construirait autrement que par ce type de récit ? Alors, c'est une question ouverte, Tiphaine Lebeg.
Alors, bon, moi, j'ai pas la même vision sur la présentation de Monsieur Jacquemin. Donc, je ne peux pas répondre, mais si, en tout cas, pour parler des femmes entrepreneurs, ce qui est surprenant, je vais vous donner un exemple. J'ai interrogé une entrepreneur, donc elle a créé son entreprise avec son mari. Aujourd'hui, c'est une PME de 100 personnes en Bretagne. Et elle m'a raconté son parcours. C'est un parcours bien semé d'embûches. Je lui ai demandé de quoi es-tu le plus fière aujourd'hui ? Et elle m'a dit d'avoir réussi à créer une équipe autour de moi et de créer une équipe de bons. Parce qu'il y a des bons autour de nous. Voilà ce que je dirais.
Merci beaucoup, Tiphaine Lebeg. Je rappelle que vous êtes professeure à l'école de commerce de Tours. Et c'était donc au Passeo des Entrepreneurs, au DOC des Sud, un Passeo organisé par l'Union régionale BGE Grand Sud. Merci beaucoup, Tiphaine Lebeg.
Merci.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec.